clôture hier mardi à Pékin en Chine, 17e forum économique entre l'Afrique et la Chine. Au cours de ses assises, le président chinois a promis que son pays va investir 60 milliards de dollars sur le continent. Selon Xi Jinping, les investissements chinois en Afrique viennent sans aucune condition politique. Toujours d'après lui, la dette de certains pays africains les moins avancés serait annulée en partie. Quelle lecture faire de ces forums? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission ici au studio Serge Kadima, il est économiste et aussi communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur Serge Kadima.
Bonsoir.
Alki Tengue, analyste économique et stratège. Bonsoir Monsieur Alki Tengue.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à nos chers auditeurs.
Professeur Kabe Achikoukou, professeur d'économie et du développement à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, directeur honoraire de l'Institut panafricain pour le développement à Douala au Cameroun. Il est membre de la direction politique du CDPS, parti de l'opposition. Bonsoir professeur Kabe Achikoukou.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le 7e forum de coopération sino-africaine s'est clôturé ce mardi 4 septembre à Pékin. Presque tous les pays africains y ont été représentés au plus haut niveau, tous porteurs de projets cherchant des financements. Ce forum a également été l'occasion pour certains États africains de renégocier leurs dettes avec la Chine qui a pratiquement détourné le continent noir de son partenaire traditionnel qui est l'Occident. On écoute Israël Moutala, journaliste et analyste économique, au micro de Daniel Tambinzoni.
Mon analyse par rapport à cette ruée de chefs d'État africains est toute simple. L'Afrique a un besoin criant en investissement pour des travaux d'infrastructure. Il s'est fait qu'ils ont besoin de capitaux importants pour justement bâtir leurs infrastructures. Et la Chine a de réserves d'échange importantes qui peuvent faire ce que les infrastructures dont manque cruellement l'Afrique soient financées. C'est ce qui fait que beaucoup de chefs d'État ont fait le déplacement du 7e forum de coopération sino-africain. Il faut le rappeler, l'Afrique ne peut pas se développer si elle ne développe pas d'abord ses infrastructures, notamment routières, notamment énergétiques.
Et la Chine, qui dispose 60 milliards de dollars américains sur 3 ans pour les gouvernements africains, vous pensez que c'est suffisant?
C'est pas suffisant. Les besoins en infrastructure de pays africains sont colossaux. Mais il faut dire que les 100 milliards qu'a disponibilisé la Chine sur 3 ans est un pas. Mais dans une relation bilatérale entre l'empire du milieu et les pays africains, c'est une somme à ne pas négliger. Dans un contexte où l'argent est de plus en plus difficile à trouver, les partenaires traditionnels des Africains, que sont les Occidentaux, offrent de moins en moins de financement, de capitaux. L'aide publique au développement n'est pas respectée et même quand elle est respectée, l'aide occidentale en matière de financement est souvent assortie à plusieurs conditionnalités.
La République démocratique du Congo est également présente à ces grands forums. Que pourrait être le besoin de la RDC à présenter à ce forum?
Je pense que la RDC a beaucoup à y gagner. Elle y va là-bas avec des projets bancables, des projets intégrateurs. Il y a déjà un projet qui est très avancé, le projet de Inga 3, qui est chiffré à peu près à 12 milliards 500 millions de dollars comme coût d'investissement pour une capacité de 4800 mégawatts. Je pense que si la RDC présente bien ce projet là-bas, on peut justement lever ses fonds et financer le projet d'Inga.
Serge Kadima, vous êtes économiste, vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. 7e forum économique Afrique-Chine, au cours duquel la Chine annonce l'investissement de 60 milliards de dollars en Afrique. Comment vous analysez cette initiative de la Chine?
Je pense que la Chine, qui est aujourd'hui une puissance qui s'impose sur le plan international, démontre sa puissance qui se diffuse dans tous les domaines, de la haute technologie à la manufacture des bases. Aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique en général ou la République démocratique du Congo dispose en fait de tout pour mettre sur le marché international, notamment en ce qui concerne la nouvelle technologie. Nous sommes aujourd'hui donneurs de beaucoup de choses, ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui comment je peux dire, l'Afrique aujourd'hui est en train de proposer mieux, ce qui fait que la Chine, qui veut s'épanouir, qui veut développer ses activités, puisse venir en Afrique, afin que nous puissions créer un partenariat win-win, malgré que il a été dit qu'il n'y avait pas de conditions politiques, mais on ne peut pas investir dans un cadre politique qui n'est pas rassurant. Donc c'est pour dire que si la Chine vient en Afrique, c'est parce que elle estime que la Chine peut être un véritable partenaire par rapport aux autres partenaires.
Voilà, et au sujet de ces conditionnalités, cette conditionnalité politique, peut-on dire que c'est ces facteurs-là qui expliquent l'empressement des pays africains à répondre à l'invitation de la Chine?
Bon, ce qui explique cet empressement, c'est le fait que la Chine offre aujourd'hui mieux par rapport aux partenaires traditionnels. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas s'en passer de nous aujourd'hui. Ce qui fait que il y a plusieurs offres, il y a plusieurs partenaires qui peuvent venir en Afrique. Mais si la Chine aujourd'hui offre mieux et que nous estimons que ce que la Chine nous offre peut nous permettre de développer notre industrie, permettre de développer les différents secteurs de l'Afrique, particulièrement de la RDC, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut l'industrie. Pour qu'il y ait l'industrie, nous devons avoir de l'énergie. Nous avons, j'ai suivi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui parlait du barrage d'Inga 3, et je pense que ces barrages peuvent booster beaucoup de choses. Ces barrages peuvent être à la base du développement de notre pays.
Vous avez parlé de ces partenaires classiques des pays africains qui sont les pays occidentaux. Et l'arrivée des investissements chinois est perçue plutôt justement par ces partenaires comme une sorte de menace. Et comment, à votre avis, les pays africains devraient gérer cette coopération avec la Chine sans pour autant gêner leurs partenaires traditionnels?
Il n'y a pas de menace dans la mesure où tous les pays africains sont autonomes du point de vue de l'indépendance de chaque pays membre, du point de vue de la constitution. Il n'y a pas de menace. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo estime que pour booster son économie, pour booster sa production, il faut qu'on change de partenaire, je pense que tout doit se faire dans le respect des lois, dans le respect des contrats qui ont été contractés à l'époque. Donc il n'y a pas de menace dans la mesure où nous respectons les engagements avec les partenaires traditionnels ou bien les anciens partenaires. Nous allons vers la Chine parce que nous estimons que nous avons besoin de capitaux frais pour relancer notre économie, pour booster notre production, pour créer des connectivités entre des zones de production et des zones de consommation. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème et je ne pense pas que les partenaires traditionnels peuvent considérer cela comme des menaces à partir du moment où il y a un ralentissement dans les partenariats qui nous lient avant.
On parle de la coopération gagnant-gagnant pour un développement commun. Et à votre avis, quelle pourrait être la contrepartie économique de ces partenariats pour les pays africains? On se rappelle qu'en ce qui concerne la RDC, les 7 milliards promis dans le cadre des contrats chinois n'ont pas produit les résultats escomptés, alors que la Chine est en train actuellement, n'est-ce pas, d'épuiser les 10 millions de tonnes de cuivre, 650 000 de tonnes de cobalt à Kolwezi. Quelle pourrait être, selon vous, la contrepartie économique pour les pays africains?
Je pense que d'abord la Chine met les moyens, les capitaux frais, l'Afrique en a besoin et il appartient maintenant aux pays africains de proposer des projets bancables, des projets capables de booster, sinon d'améliorer les conditions de vie de leur population. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons presque tout à donner. Nous sommes un pays potentiellement riche, avec un potentiel forestier énorme, important, avec un potentiel agricole, un potentiel touristique très important. Je pense que aujourd'hui, les gouvernements de la République, qui a un projet, je crois bien, il doit l'améliorer pour que nous puissions saisir cette opportunité, afin que nous puissions avoir la grosse part dans ce que la Chine offre à l'Afrique.
Nous avons tout à donner. Qu'est-ce que nous avons, nous, à gagner?
Nous avons d'abord à gagner les capitaux frais parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, il a été démontré que nous avions des problèmes d'argent. Nous avons des problèmes de booster notre propre économie parce que la chanson, c'était qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant qu'il y a des moyens, je pense que avec un très bon projet dans lequel la Chine va se retrouver, dans lequel la République démocratique du Congo ainsi que sa population va aussi se retrouver.
Professeur Kabea Tshikuku, professeur d'économie et de développement à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Vous êtes directeur honoraire de l'Institut panafricain pour le développement à Douala au Cameroun. Vous êtes aussi membre de la direction politique du CDPS, parti de l'opposition. Comment vous analysez cette initiative de la Chine?
Je crois que c'est une initiative extrêmement intéressante. Mais tout de suite, il faut dire qu'il ne faut pas d'euphorie. Il ne faut vraiment pas y aller avec une euphorie et un aveuglement. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique aura une chance de se brancher sur la source des capitaux. Et ce ne sont pas les capitaux qui manquent le plus à l'Afrique. Personnellement, j'ai entendu ça, mais ce ne sont pas les capitaux qui manquent le plus. C'est l'Afrique elle-même qui manque le plus à l'Afrique. Ça veut dire tout simplement que la Chine, dont nous célébrons aujourd'hui en grande pompe la coopération et les intérêts et les avantages que nous avons en perspective, cette Chine s'est construite. Elle s'est bâtie presque en autarcie, c'est-à-dire presque refermée sur elle-même. La Chine a connu des empires très brillants jusqu'à la fin du 19e siècle et il y a eu une révolution qui a eu lieu vers 1911. Il y a eu une révolution. La révolution à l'issue de laquelle il a été créé un grand parti, le Kuomintang. Le Kuomintang était un grand parti soi-disant nationaliste qui avait des capitaux occidentaux qui venaient. Et la Chine n'était pas pour autant développée. Elle a dû, la Chine, procéder à une révolution intérieure qui a commencé depuis le 2 mai 1921 avec l'armée rouge regroupée autour de Mao Tse-Tung et de certains cadres, et la Chine s'est refermée pratiquement sur elle-même à partir de 2 mai 1921 jusqu'au 1er octobre 1949. Cette Chine que nous célébrons aujourd'hui, dont nous applaudissons la coopération, elle sort de l'isolement. Elle sort d'une sorte de retraite, d'une sorte de conclave, où elle s'est structurée à l'intérieur, où elle s'est apprêtée comme une puissance à la fois économique, scientifique, technologique et militaire. C'est la Chine que nous revoyons aujourd'hui ressurgir de la cendre de l'ancienne Chine. Et donc il ne faut pas que les Africains se mettent à délirer et à dire, voilà, nous avons besoin des capitaux, les capitaux sont en train d'arriver, les capitaux arriveront toujours. Mais tant que les pays africains, les économies africaines, seront des tonneaux de Danaïdes, où les gens détournent les fonds publics, où il y a une gabegie, où il n'y a pas de loi respectée, où les intérêts de la grande majorité ne sont jamais respectés, où la classe moyenne locale n'est jamais aidée, où l'emploi des jeunes n'est jamais au rendez-vous. Cette Afrique-là, quel que soit le nombre de capitaux et l'importance des capitaux qu'elle recevrait de l'extérieur, cette Afrique-là ne saura rien faire pour se transformer en elle-même.
Voilà, vous déconseillez l'euphorie, vous dites qu'il ne faut pas y aller avec aveuglement. Il y a des analystes qui expriment des inquiétudes. Ils estiment que les Africains adhèrent à un partenariat sans chercher à comprendre au préalable les contours de ces partenariats et que cela pourrait se retourner contre les pays africains. Cela veut dire que vous partagez les mêmes inquiétudes?
Non. Tous, nous sommes du côté de la critique, mais eux, ils ont des raisons qui sont les leurs. Moi, j'ai des raisons qui sont les miennes et qui peuvent largement être les raisons des Africains. Eux, ils craignent de perdre leur marché, de perdre leurs avantages, de perdre un partenariat qui était gagnant-perdant. Un partenariat qui a été installé depuis la colonisation. Eux, ils ont de bonnes raisons de crainte, mais leurs raisons ne sont pas les miennes. Moi, je dis, nous avons subi la coopération jusqu'ici, la coopération avec l'Occident. Nous l'avons subi. Subi, mais vraiment jusqu'à la lie. Au jour d'aujourd'hui, il y a un autre partenariat qui se, qui se dresse devant nous. Il est le bienvenu. Surtout que ça nous permet de diversifier de partenaires. C'est une très bonne chose. Mais tant que l'Afrique elle-même ne se restructure pas de l'intérieur, ne se révolutionne pas de l'intérieur, tant que cette Afrique elle-même ne change pas, elle continuera à être un tonneau de Danaïdes, donc un tonneau que aucun apport de capitaux ne peut remplir, un tonneau qui sera une éternelle érosion des moyens de production, un tonneau où vous aurez un peuple qui va toujours rêver d'aller vivre à l'extérieur, où il n'y aurait pas d'emploi, où il n'y aurait pas d'habitat, où il n'y aurait pas de formation convenable, où il n'y aurait pas de santé, où il n'y aurait pas de travail épanouissant. Si nous continuons sur cette lancée, quelle que soit l'infusion des capitaux provenant de l'extérieur, nous aurons à continuer sur le chemin de l'esclavage, sur le chemin de l'infériorité, sur le chemin de l'extraversion et sur le chemin d'une misère encore plus prononcée.
Merci, donc, professeur. Merci, oui, je vais vous redonner la parole, professeur Alki Tengue, analyste économique et stratège. Votre analyse par rapport à ces forums économiques Afrique-Chine.
Je voudrais d'abord corriger, ce n'est pas un forum Afrique-Chine, c'est un forum Chine-Afrique. La hiérarchie des mots est très importante parce que il faut savoir que c'est un agenda chinois et qui met en face l'Afrique. Cet agenda est géopolitique, il est géostratégique et il est géoéconomique. La Chine renforce son influence et son rôle dans l'économie ou dans les économies de l'Afrique. La Chine a un agenda particulier d'alimentation stratégique en produits de base qui se trouve majoritairement sur le territoire africain, dont il voudrait s'assurer des couloirs d'approvisionnement sérieux. La Chine s'aperçoit des faiblesses structurelles, y compris des faiblesses d'infrastructures de base qui lui permettent de pouvoir accéder de manière intelligible aux ressources qui sont en Afrique. Alors, la Chine anticipe et essaye de renforcer son partenaire pour qu'elle soit en mesure d'accéder de manière viable aux ressources qui lui donnent un avantage comparatif vis-à-vis du reste du monde. C'est pour ça que je parle de la géostratégie. Il faut savoir quand même que la Chine fait tout ça en prenant à contre-pied l'Occident, qui, par erreur d'approche, a continué à multiplier les conditionnalités dont certaines sont politiquement gênantes. En fait, la Chine dit « Je vous tends le tapis rouge, quel que soit le degré de désordre sociopolitique dans votre pays, venez » et la Chine brandit les capitaux frais. La Chine brandit le cash. Et comme vous le savez très bien, le cash cohabite dans la même culotte que la corruption et malheureusement la malversation. Et la Chine dit « Je ne regarde pas ça ». Je m'en fous, mais en fait, il y a une question de responsabilité. Ça veut dire qu'en fait, certains pays africains peuvent être tentés de s'endetter sans se donner les moyens de rembourser. Et donc, ces pays vont devoir passer aux générations futures des dettes qui n'auront servi à personne dans le pays, si ce n'est à quelques individus. Et je crois là-dessus que les Africains doivent être responsables. La Chine a un agenda et une stratégie sur l'Afrique. Il faudrait que les pays africains, il faudrait que l'Afrique et les pays africains aient chacun un agenda vis-à-vis de la Chine et qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils veulent tirer de la Chine. Par exemple, un pays comme le nôtre, nous avons un projet sur Inga. Nous parlons de Inga 3. Inga 3, c'est à peine 4,8 gigawatts de potentiel hydroélectrique. La Chine a une histoire extrêmement importante en hydroélectricité. Ils ont le plus grand barrage du monde, les Trois Gorges. C'est près de 21 000 mégawatts. Nous avons sur Inga le double et plus. Ça sous-entend qu'en fait, au lieu de faire de micro-projets, la Chine devrait être en bilatéral, notre partenaire, pour faire le double de ce qu'ils ont chez eux, parce qu'ils en connaissent non seulement l'importance, mais également la rentabilité.
Pendant que depuis toujours, c'est avec la Banque mondiale, n'est-ce pas, que nous avons collaboré par rapport à
la, la Banque mondiale nous a aidé à structurer le projet. Encore une fois, le leadership du projet de Inga, ça devrait rester notre leadership. Et le rôle de la Banque mondiale, c'est de nous aider et de ne pas le faire à notre place. Et pour ça...
Et qu'est-ce qui change avec le partenariat chinois par rapport à ces projets de Inga 3?
Non, encore, je répète ce que j'ai dit, nous ne devons ni laisser à la Banque mondiale, ni à la BAD, ni à la Chine. Ça doit être un projet intelligemment géré par nous et nous faisons intervenir les différents partenaires en fonction de leur capacité. Je voudrais revenir sur quelque chose d'assez important, la responsabilité dans les rapports internationaux. La responsabilité, c'est de poser des actes d'aujourd'hui dont les effets demain sont responsables vis-à-vis des générations à venir. Et ici, nous sommes dans une question simple d'endettement. Une grande partie de l'argent que la Chine déverse sur le continent africain, c'est de l'endettement. Et vous savez, l'endettement envers la Chine est tout à fait simple à comprendre. C'est je vous donne de l'argent et je travaille avec vous pour développer vos infrastructures en déterminant combien ça coûte. En contrepartie, c'est moi qui vous dis que finalement le taux d'intérêt est concessionnel. En fait, la seule chose qu'on ne regarde pas, c'est que tous les marchés sont passés de gré à gré. En fait, ils sont malheureusement en grande partie surfacturés.
Je pense. C'est qu'on est.
Non, je ne dis pas ça. Je voudrais simplement dire qu'il est important que les gouvernements africains, et notre pays en particulier, sachent ce qu'ils veulent. Vous savez, si vous savez que vous désirez faire autant de kilomètres de route et vous avez un budget, les gens ne peuvent pas vous surprendre avec des budgets doubles ou triples. Nous avons dans ce pays le malheur d'avoir constaté la différence entre la route que le Japon a réalisée et les différentes routes que la Chine a réalisées. Et je pense qu'il est important pour nous de nous rendre compte que la Chine est un très grand pays avec un savoir-faire important. Mais il nous faut une certaine discipline pour être en mesure de travailler. L'autre chose, et je voudrais terminer par là, c'est de toujours s'assurer que quand nous travaillons avec des pays qui sont financièrement plus puissants que nous, nous devons être suffisamment disciplinés pour travailler en fonction de nos lois. Je donne par exemple la question de l'emploi. Les Chinois travaillent ici dans l'informel. Ils amènent des travailleurs chinois ici et qui travaillent sans contrat de travail. Et quand ils emploient des Congolais, ils n'ont pas de contrat de travail. Et ils travaillent dans un cadre du travail public. Ça veut dire des contrats publics, ce n'est pas acceptable.
Voilà. Et comment vous avez analysé les partenariats entre la Chine et la RDC en ce qui concerne les contrats chinois? Et on sait que c'était 7 milliards, n'est-ce pas, qui ont été investis par la Chine pour la construction de certaines routes. Mais en contrepartie, la Chine est en train de puiser actuellement plus de 10 millions de tonnes de cuivre et plus de 650 000 tonnes de cobalt à Kolwezi. Est-ce que ça, ce n'est pas un contrat léonin? Parce qu'en fait, les 7 milliards, on ne voit pas les résultats que cela a produit.
Je vous laisse la responsabilité des chiffres et de leur valeur, mais je voudrais encore dire une fois que ce premier contrat chinois que nous avons signé était une première expérience en qualité et en volume. Nous y avons commis beaucoup d'erreurs, certaines erreurs liées à des questions d'éthique, mais nous avons d'une certaine manière corrigé. Je pense que nous devons être en mesure d'en tirer de leçons pour que les prochains contrats que nous discutons et nous signons soient des contrats sérieux et qui sont responsables vis-à-vis des générations à venir. Ce que je voudrais dire, et c'est tout aussi important, c'est que quand nous travaillons avec la Chine, il y a trois couloirs. Le premier couloir, c'est le bilatéral public, ça veut dire État-État. Le deuxième couloir, c'est le bilatéral public, privé, entreprise, je veux dire, gouvernement congolais, entreprise chinoise. Et le troisième couloir, c'est privé-privé, ça veut dire en fait des entreprises congolaises avec les entreprises chinoises, qu'elles soient du public ou qu'elles soient du privé. Et là-dessus, nous devons être en mesure de faire actionner le tout, et nécessairement pas de manière politique, mais nous devons être en mesure de mettre des relations économiques viables qui puissent nous permettre d'être non seulement rentables, mais également être responsables vis-à-vis des générations futures. Et ça, j'insiste.
Serge Kadiba, nous allons suivre cette réflexion qui vous est adressée. Elle vient de Kinshasa, de Bukavu, plutôt.
Isaac Bampori, qui de Bukavu, au sud Kivu. Ces derniers temps, le gouvernement de la République démocratique du Congo met un point d'honneur à refuser l'aide étrangère au motif qu'il veut s'affirmer comme souverain et barrer la route aux partenaires qui seraient tentés de lui imposer un élu. Va-t-il aussi refuser de bénéficier de ses 60 milliards de dollars pour que dans son orgueil de souverain et d'un pays riche, il ne s'aligne pas avec les pauvres très endettés? Par ailleurs, en institution d'État souverain sérieux, Qu'est-ce que les institutions de la République démocratique du Congo ont déjà fait pour évaluer les fameux contrats chinois de l'ère des cinq chantiers et de la révolution de la modernité tant vantée et établir éventuellement les responsabilités de ce qui n'a pas marché? Où est donc le bilan de tout cela pour que le peuple apprécie qu'il vaut la peine que le pays continue avec de tels partenariats ou pas?
Serge Kadima.
Bon, je vais dire à M. Isaac qui fait allusion à la souveraineté du pays. C'est vrai que la souveraineté ne nous interdit pas d'évoluer dans un partenariat gagnant-gagnant. J'ai suivi personnellement les autorités chinoises dire qu'ils vont financer les projets avec un véritable modèle économique qui s'est montré, et la Chine, les projets qui va se montrer crédibles. Je pense qu'ici, il s'agit d'un pays qui traite avec un autre pays dans le respect mutuel, en proposant, sinon en faisant des offres par rapport à ce que nous disposons, et la Chine va mettre des capitaux frais. Figurez-vous, sur 60 milliards de dollars que la Chine met à disposition des pays africains, nous sommes sur 54 pays africains, il y avait 53 pays africains. Si chaque pays doit avoir un milliard, c'est-à-dire on n'aura rien fait, c'est comme ça que nous serons dans une espèce de compétition où chaque pays va vouloir démontrer comment on peut développer, comment on peut voler ensemble avec la Chine. Bon, c'est différent avec les gens qui se réveillent un matin qui disent nous allons donner 2 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour organiser des élections. Ça touche à la souveraineté nationale. Ici, ce sont des questions qui concernent la vie de nos compatriotes. Chaque gouvernement responsable qui veut améliorer la vie quotidienne de la population, il peut, j'ai dit, les États-Unis d'Amérique, c'est aussi endetté à la Chine. Nous savons que ça se passe aussi même avec les pays soi-disant développés. Nous disons que dans les respects mutuels, nous allons les faire. Ça n'altère pas la souveraineté parce que ce n'est pas une souveraineté que le gouvernement congolais ou bien l'Afrique va aller là-bas à laisser. Donc je pense qu'il peut se calmer. Par rapport au premier contrat, j'ai suivi M. Al-Kitenge qui a dit que c'est le premier contrat. C'est tout à fait légitime qu'au premier pas, il s'est glissé des erreurs dans les discussions, mais nous pensons que le plus important, c'est d'aller de l'avant, de voir ce qui n'a pas été fait et comment corriger, comment faire que cette fois-ci nous puissions avoir un partenariat dans l'intérêt de nos populations.
Voilà, comment vous réagissez aux propos du professeur Tshikuku qui déconseille, n'est-ce pas, l'euphorie, et il pense qu'il ne faut pas y aller avec aveuglement, et il estime que ce ne sont pas les capitaux, n'est-ce pas, qui manquent à l'Afrique.
Bon, je pense que nous avons besoin des intelligences congolaises. De temps en temps, il y a des débats au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des débats dans les médias. J'ai tout à l'heure apprécié mon aîné Al-Kitenge par rapport à la qualité de ses interventions. Mais nous disons que si ils ont des recettes, ils ont des propositions, il faut le faire que de rester pessimiste. On ne peut pas interdire à un gouvernement qui est à la recherche des solutions pour améliorer les vécus quotidiens de la population. Nous disons, c'est vrai, pendant 32 ans, il y a des gens qui ont dirigé ces pays, qui ont fait des erreurs graves, qui nous ont amenés dans une situation inexplicable aujourd'hui. Vous savez, lorsque le président Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001, on n'avait pas de cadrage macroéconomique. Vous connaissez que c'est grâce aux efforts du président Kabila que nous sommes arrivés au point où nous sommes. C'est vrai que nous disons qu'on n'a pas atteint l'idéal. Nous devons continuer à conjuguer des efforts partout où nous nous trouvons pour voir dans quelle mesure nous pouvons, dans différents secteurs d'activité ou domaines d'activité, apporter un plus pour que nous puissions construire notre pays et atteindre la prospérité. On ne doit pas rester dans ces pessimismes pour commencer à interdire même à un gouvernement de trouver des solutions pour les autres. Je pense que c'est pas bon. En tant que professeur, nous attendons les publications ou bien nous attendons les propositions pour qu'ils nous disent, c'est vrai, je suis d'accord que nous avons un potentiel budgétaire ou fiscal énorme, intéressant, par rapport à ce que nous mobilisons au quotidien, mais j'insiste que nous avons besoin de capitaux frais pour booster notre économie, pour améliorer la production de notre pays.
Oui, le professeur a aussi rappelé que nous avons subi la coopération, pendant longtemps, la coopération avec les pays occidentaux. Est-ce que nous n'allons pas subir la même chose avec la Chine? Les profs a prôné, n'est-ce pas, une sorte de révolution à l'interne?
Je pense que cette révolution, elle est importante, et je pense que cette révolution s'installe déjà à partir du moment où nous sommes réveillés. À partir du moment où Vous savez, à l'époque, il était même difficile. J'ai entendu quelqu'un parler de la Banque mondiale ici. Les institutions de Bretton Woods, avant c'était difficile. Mais lorsque nous nous sommes mis dans les programmes formels avec ces institutions de Bretton Woods, il y a eu quand même, c'est vrai, au départ il y avait l'encadrement technique du Fonds monétaire international, mais à un certain moment nous avions été très bien cotés jusqu'à atteindre même les points d'achèvement. C'est-à-dire que nous avons atteint la maturité et dans le futur partenariat ou dans le futur contrat, nous allons tenir compte de tous les paramètres pour éviter les erreurs du passé.
Professeur Chikoku, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Lisa Mbaïkia depuis Kisangani, à mon humble avis, le forum Afrique-Chine est salutaire, mais le message du président chinois qui nous inquiète largement, car les dirigeants africains n'ont pas le patriotisme de leur population, dit qu'il va investir ces milliards de dollars sans aucune condition politique, à mon entendement, c'est sacrifier la population africaine, car ces autorités vont tout mettre en pause pour nos intérêts privés et égoïstes.
Professeur Kabiati Koukou.
Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais été pessimiste sur l'avenir de mon pays. Je suis de la vieille garde, j'ai vu venir l'indépendance, j'étais jeune, j'étais adolescent. Et donc, je ne suis pas pessimiste du tout. Je suis de la génération qui a connu le délire de l'indépendance et qui l'a fêté abondamment, jusqu'à en mourir même. Donc, je suis un homme tout à fait optimiste. Ce dont il est question ici, c'est d'éviter de faire croire que la solution de nos problèmes viendrait des capitaux frais. Les gouvernements peuvent toujours, et je crois que c'est de leur responsabilité, recourir à des fonds à l'extérieur. Al-Kitenge vient de dire tout à l'heure que ce n'est pas une démarche de la part de la Chine, ce n'est pas une démarche innocente. Ce n'est pas pure générosité que d'entamer cette partie avec l'Afrique. Ça se situe exactement dans les objectifs d'une puissance, d'une grande puissance qui se réveille et qui a les ambitions tout à fait légitimes de se positionner à l'échelle planétaire. C'est tout à fait normal. Donc, c'est normal, c'est légitime du côté de la Chine de faire ce qu'elle est en train de faire, mais également, c'est normal et c'est même obligatoire pour l'Afrique qui a été baisé dans pas mal de contrats, il appartient à cette Afrique d'être très éveillée, d'abord de se restructurer de l'intérieur, je reprends le terme, de se restructurer de l'intérieur. Sans cette révolution du sens à l'intérieur, sans cette révolution sociologique, sans qu'il y ait, par exemple, qu'il soit mis fin à l'impunité, parce que je ne crois pas que sur ce plateau, nous puissions dire que nous avons l'impunité zéro, ici. Le respect de la loi, le respect du bien commun, le respect des biens collectifs, la transformation de l'État en une instance de service à la communauté. Tout ça, c'est des révolutions que nous devrions parfaire ici. Dire les capitaux atterrissants venant d'Orient après ceux qui sont venus pendant plus d'un demi-siècle de l'Occident et ces nouveaux capitaux frais seront notre salut, je ne crois pas.
Oui, professeur, vous avez affirmé que l'Afrique a subi pendant longtemps la coopération avec les pays occidentaux. Et à votre avis, quels pourraient être les bilans du partenariat entre l'Afrique et la Chine? Parce que ça fait quand même 15 ans que nous collaborons effectivement avec ces pays.
Non. Le bilan, je crois, c'est du colmatage. Le bilan, c'est du colmatage. Al-Kitenge, tout à l'heure, a dit qu'il y a des routes qui ont des nids de poules. Et il y a une route qui est tout à fait célébrée, tout ça pour sa qualité et tout le reste. C'est du colmatage. Vous commencez les infrastructures, mais vous ne savez pas où mènent les infrastructures. Vous faites le Congo, notre pays, par exemple, a des infrastructures tournées vers l'extérieur. La sortie de Matadi, la sortie de Kasumbalesa, la sortie du Tanganyika par Kalemie, la sortie par Sakania, toutes ces sorties-là, si nous construisons aujourd'hui les infrastructures en misant sur ces sorties qui ont été installées dans une économie extravertie coloniale, nous n'aurons rien changé à la réalité de fond. Donc ça demande de repenser les infrastructures en vertu de l'intraversion de l'économie, dans la perspective de construire une économie au service de la population intérieure. Dans ce cadre-là, ce que nous recevrons comme capitaux faits servirait à transformer de fond en comble notre économie qui est réorientée de l'intérieur.
Merci.
Voilà, voilà par exemple ce que je voudrais dire. Et donc, dire les capitaux frais, ça a toujours été frais. Mais ils deviennent chauds chez nous. Aussitôt qu'ils atterrissent chez nous, aussitôt qu'ils trouvent un pays très peu organisé, où il y a la mauvaise organisation. Donc, on en arrive à des situations qui sont des situations tout à fait paradoxales.
Merci, professeur. Alkitenge, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Kisangani.
Olin Sengangabo, je vous appelle depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. L'organisation de ce fameux forum économique Chine-Afrique est louable et logique. En faisant allusion à Alain Peyrefitte, en 1973, il avait dit que quand la Chine se verra, le monde tremblera. Cette prophétie est en train de se réaliser au regard de l'implantation de la Chine en Afrique, tout comme d'ailleurs les Occidents. Le partenariat Chine-Afrique et de l'Afrique a se développé car il n'est soumis à aucune condition à l'unité politique contrairement à celui d'avec l'Europe. Cependant, il revient au chef d'État africain à penser à l'unité du continent pour que l'Afrique puisse être très forte et encore plus compétitive dans le monde. Quant à la RDC en particulier, cette coopération peut avoir son succès compte tenu de la qualité et le sérieux de nos diplomaties et gouvernements.
Akitenge.
C'est pertinent de se rendre compte que un citoyen lambda, et je voudrais féliciter Pona ici, a une pertinence aussi puissante dans l'analyse. Vous savez, pendant très longtemps, ce pays avait des ambassadeurs chinois d'une qualité exceptionnelle, et c'est le cas de l'actuel d'ailleurs, mais pendant très longtemps, nous n'avions même pas d'ambassadeur en Chine. Ça montre le sérieux que nous accordons à la nation chinoise, qui est notre plus grand partenaire économique et financier. Il est important que chaque pays se mette en ordre de bataille. Et si un citoyen lambda comme ça peut être en mesure de le dire avec autant de précision, autant de pertinence, à combien plus forte raison la République elle-même ? J'ai envie encore de dire une chose. La Chine est une chose. Le président chinois travaille pour le peuple chinois. Nos institutions à nous devraient travailler pour nous. Et il est important que nous puissions être en mesure de peser de tout notre poids pour que nos institutions se rendent compte que nous sommes demandeurs d'une qualité et d'une intensité de gestion. Ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, la lutte contre la pauvreté, ça ne nous arrange pas du tout. Nous avons besoin de créer des emplois, nous avons besoin de créer intensivement des richesses et les partager. Nous avons le potentiel qu'il faut, nous devons avoir un plan de travail clair et qui englobe le maximum de notre potentiel. On ne peut pas se développer en gardant 80% de notre population dans le milieu rural comme si nous les regardions comme des animaux qui sont dans un jardin zoologique. Nous ne pouvons pas penser avoir un PIB par tête d'habitant en isolant 80% de notre population qui ne contribue pas à l'économie du pays simplement parce que nous ne leur donnons pas du service public. La puissance de la Chine, qui est encore un pays pauvre, soit dit en passant, c'est le nombre. C'est la dividende démographique. Et nous devons être en mesure de savoir jouer avec le nombre. Si nous sommes nombreux à avoir du pouvoir d'achat, ce pays va se relever. Si nous sommes nombreux à travailler de manière formelle, ce pays va se relever. Et il est important qu'on tire la leçon sur la Chine.
Oui, Akitenge, les analystes ont toujours pensé que l'un des défis dans ce genre de partenariat, c'est que les pays africains puissent exiger de la Chine les transferts des technologies. Parce qu'en fait, lorsque la Chine vient, non seulement elle s'amène avec les capitaux, mais avec la main d'œuvre. Alors, ben, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour que les pays africains puissent effectivement exiger à la Chine de pouvoir transférer les technologies?
Qui vous a dit que la Chine a le monopole du savoir et de la science? C'est notre responsabilité d'investir dans nos enfants pour qu'ils soient au meilleur niveau. La Chine a envoyé ses enfants à travers le monde et a payé cash pour que ses enfants reviennent des années plus tard avec des compétences. C'est à nous de décider où nous voulons que nos enfants aillent. La Chine n'est pas le top des sciences. Le top des sciences, c'est encore aujourd'hui les États-Unis et certains pays européens sur certaines matières. Nous avons, nous, la responsabilité d'envoyer nos enfants dans les meilleures universités du monde, de ramener ici les meilleures formations du monde, afin que, de manière qualitative et quantitative, nous ayons la qualité nécessaire du capital humain pour faire face à nos défis. Et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas la Chine qui le fera pour nous.
Oui, en plus de la Chine, il y a aussi l'Inde qui est en train de vouloir s'établir en Afrique. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas percevoir ces investissements comme étant quelque chose de dangereux? Est-ce qu'on ne va pas parler de la malédiction des investissements, comme on a parlé à un moment donné de la malédiction de l'or noir concernant certains pays producteurs et exportateurs du pétrole?
Guy, il est important de savoir que lorsque vous n'avez pas un plan pour votre avenir, vous êtes dans le plan de quelqu'un. Jusqu'à présent, l'Afrique et beaucoup de pays africains sont dans le plan de la Chine. Et si nous n'avons pas un plan pour la Chine, il sera très difficile pour nous de tirer notre épingle du jeu. Et la même chose vaut pour l'Inde, pour les États-Unis et pour n'importe quel autre pays. Je répète, il est important qu'un pays sache où il veut aller. Et je voudrais ici faire un appel solennel en ce qui concerne le plan national de développement, le plan national stratégique de développement. Ça ne peut pas être un programme d'un parti politique ou d'un groupe politique. Ça doit être un programme ouvert à tout le monde, dans lequel tout le monde se voit et se projette dans le temps. Il est important qu'on l'ouvre, qu'on le donne à tout le monde pour que nous puissions avoir une version qui pourrait être acceptée en termes de loi. Ça nous permettra d'avoir tout le monde autour du même pot de feu.
Serge Kadima, nous allons commencer à conclure parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Alki Tenga a insisté sur la responsabilité des pays africains. La plupart des régimes africains ne sont ni viables ni fiables. À votre avis, avec quelle crédibilité les gouvernements africains vont engager, n'est-ce pas, leur pays dans ce genre de contrats?
Non, moi je pense que si nous sommes arrivés au point d'organiser un forum économique Chine-Afrique, c'est parce que déjà la Chine estime que l'Afrique est crédible. Et si on n'était pas crédible, on n'allait pas aujourd'hui être au cœur, sinon des stratégies chinoises sur ou bien pour la prospérité de leurs activités économiques. Aujourd'hui, il a parlé de la soutenabilité de la dette, parce que c'est vrai, c'est pas l'argent que la Chine donne pour le beau yeux des Africains, mais parce que la Chine va tenir compte de la qualité des projets qui sera ou bien qui seront proposés par les pays africains. Je pense que de ce fait-là, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, un pays qui offre plusieurs opportunités au monde. Nous pensons que, certains l'ont dit ici, nous pensons que nous devons tirer les leçons des erreurs commises pendant 32 ans, des erreurs commises au début, sinon lorsqu'on signait les premiers contrats avec la Chine, pour que nous puissions cette fois-ci intégrer les éléments qu'on n'a pas pu mettre en compte lorsqu'on était en train de signer, afin que nous puissions faire bénéficier de l'ensemble de la population l'intérêt ou les bénéfices de ces partenariats. Nous pensons que cela s'avère très très important. C'est vrai, ici je ne vais pas dire que nous avons atteint les 100% de la crédibilité, mais il y a des efforts qui ont été fournis. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on a eu comme partenariat les 10 dernières années, nous pensons que les résultats sont concluants.
Merci. Professeur Tchoukou, vous allez aussi conclure. Comment vous entrevoyez l'avenir de ces partenariats entre la Chine et l'Afrique?
Deux plans. Le premier plan, c'est le plan national de chaque pays. Il faudrait que chaque pays sache où il va, où il mène sa population, ce qu'il doit réaliser et quelles sont ses responsabilités devant Dieu et devant l'histoire. Ça, c'est extrêmement important, on l'a suffisamment souligné. Au plan panafricain, regardez la Chine, c'est à peu près la même superficie que le Congo, que l'Afrique, mais c'est à peu près aussi la même, disons, un peu plus que la population africaine.
Merci.
Alors, je dis, vous avez une Chine unie, devant une Afrique éclatée.
Merci, professeur. Monsieur Alkitenge, votre conclusion?
Je pense qu'il ne faut pas donner le monopole de partenariat à la Chine. Il faut avoir une pluralité des partenaires et c'est à nous de choisir.
Et Serge Kadima, votre conclusion?
Je pense que la plus grande crédibilité, c'est que la population congolaise a donné sa faveur aux autorités qui sont en place et celle-ci agit pour le compte de la population congolaise et nous pensons que toutes les options qui seront levées sera dans l'intérêt de celle-ci.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la technique et merci à Alain Hirung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, à la présentation Guy Matse. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.